comprenons bien le sens de cette recherche que nous allons faire. L'être se dit de multiples façons. Il s'agit de découvrir que l'être se dit principalement de la substance. Donc, c'est ce principalement, saisir le principe, qu'on saisit forcément. La substance, elle est cachée. Il faut la dire, les détails. Quand on saisit quelque chose, on le dit. Une fois qu'on l'a saisi et qu'on l'a dit, on peut garder le silence. Mais si vous gardez le silence avant, vous vous endormez. Parce qu'il peut y avoir un silence qui fait dormir et un silence qui fait contempler. Il y a deux espèces de silence. Et ils nous accompagnent toute la vie. Alors, on part de cette question. L'être, Tohon, Legetai, se dit, est dit par moi et par vous. Legetai, l'être est dit de pollakos, de multiples façons. En effet, prenez tout simplement l'être, c'est au fond l'homme. C'est ça qui m'intéresse hein, dans l'être. S'il n'y avait pas l'homme, il n'y aurait pas métaphysique. Donc l'homme, si vous voulez, mais on dit l'être, parce que c'est l'être en réalité. Et on cherche dans l'homme son potentiel d'être. Comment l'homme est l'être le plus parfait que j'expérimente. Vous ne pouvez pas expérimenter un homme, un être plus parfait que l'homme. Or, on fait cette recherche à partir de nos expériences. Je n'expérimente pas directement la substance. J'ai toujours dans la tête ou dans la mémoire ce fantasme. Il y avait un père hollandais, dominicain, de grande taille, de très grande taille. Quand il montait à l'université, de l'Albertinum à l'université, il avait une démarche majestueuse, lente. Il était exégète. Et autour de lui, il y avait des gosses qui le regardaient. On aurait dit une tour qui avançait. Bien verticale, hein, tout à fait. Et les gosses le regardaient, c'était très amusant. Je montais à l'université, souvent parallèlement à lui, mais je n'allais pas de son côté pour laisser la tour monter solennellement. Et les gosses étaient là, qui le regardaient, qui faisaient autour de lui une espèce de tour en le regardant, sur tous ses aspects, lui d'une façon imperturbable, comme s'il ne les voyait pas. Il continuait sa marche. C'est très curieux. Et on voyait ça tous les jours. Alors, je pensais à la substance. C'est ça la substance. C'est l'être vertical. C'est l'être vertical. C'est l'être que je ne vois pas. Parce qu'il est trop lumineux. Je serais ébloui par la substance si je la voyais. je serais ébloui. Qu'est-ce que je vois ? Je vois sa qualité, cet être est majestueux et merveilleux. Il monte comme une tour. Cet être, il est lourd. Heureusement qu'il somme tout seul. Autrement, il faudrait une grue. Il somme tout seul. Alors, parce qu'il somme tout seul, bon, sa quantité n'est pas quelque chose de lourd. Elle sert à la majesté. Elle est assumée par la majesté. Cet être est en relation avec les autres, mais il sait sa dignité. Alors regardez ses enfants qui est autour de lui comme des enfants. Il ne se serait pas arrêté pour l'un. Tandis que si on le voyait, si on descendait juste en même temps que lui et qu'on le voyait et il y en a lui, il s'arrêtait et vous disait bonjour. Mais pour des quantités de petits gosses qui sont autour, y garder sa dignité et être relatif à l'un de ces petits gosses qui est autour de lui et qui faisait une petite tournée comme ça, constante, autour de lui, ça aurait été contraire à sa dignité. Et il agissait. Il marchait. Et il avait sa démarche qui était majestueuse, qui était forcément majestueuse. On n'aurait pas vu courir, on n'aurait pas vu se presser. Non, l'heure était relative à lui, et non pas lui relative à l'heure. Ça fait partie de la majesté, ça. Et c'est vrai. Quand quelqu'un d'important dit là, qu'il arrive à 9h30, ou 10h30, s'il n'arrive pas à 10h30, ça prouve que c'est pas 10h30. Parce que le 10h30 est marqué par son arrivée, qui change tout. Et son action particulière de marcher plus vite ou plus lentement. Je m'amusais beaucoup à le regarder et à me dire « L'être se dit de multiples façons. » Et cette chose très belle d'Aristote, d'avoir du moins, on pense que c'est d'Aristote, parce que bon, historiquement, il n'apparaît pas avant. Aristote n'a pas dit « C'est la première fois qu'on ait dit ça. » Non. Face à Platon, il découvre l'egetai. L'egetai est dit polakos de multiples façons. L'être est dit de multiples façons. Je l'appréhende, cette réalité particulière, cette réalité qui efface toutes les autres, quand lui passait, les autres réalités lui étaient relatives. Ce n'était pas sur le passage d'un tramway, heureusement, parce que le tramway n'aurait pas fait attention à ça. La technique supprime le legetai. Inverse le legetai. N'a pas de respect de la majesté. Et c'est vrai. C'est pour ça qu'on disait méchamment à Fribourg, jamais l'enfant Jésus n'aurait pu naître. Parce qu'il aurait fallu changer l'heure de tout. Le minuit aurait pris un sens de ne pas être la fin, mais mais d'être le début. Donc tout est inversé. Minuit Noël. Je crois qu'il faut reprendre ces choses très simples. Quand vous parlez en faisant attention, que vous voulez connaître la chose, connaître une réalité spéciale, intéressante, l'homme, vous-même, sans être aussi majestueux que ce père dominicain hollandais, vous voyez, d'autant plus grand qu'il était en Hollande, parce que il est dit de multiples façons. Et vous pouvez le décrire de multiples façons. Mais une chose que vous ne voyez pas, c'est sa substance. Ousia. Ce qu'il est. Ce qu'il est. Tout manifeste ce qu'il est, mais ce qu'il est au-delà de la manifestation. Et c'est vrai, vous auriez pu décrire tout ce qu'il traînait avec lui, tout ce qu'il portait avec lui. Ça, vous auriez pu très bien le noter. Mais ce qu'il est, ça échappe. Ça échappe au regard extérieur. Ça échappe à l'expérience immédiate. Parce que même s'il s'arrête, qu'il vous serre la main, qu'il vous dit bonjour, ce qu'il est, reste caché. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Vous vivez en communauté. Est-ce qu'on vous connaît? On reconnaît, oui. On connaît les choses extérieures, la manière dont vous marchez. Alors vous faites du bruit en passant à travers le dormitorium, on dit c'est lui qui passe, parce que lui, ça faisait grincer les planches, il y avait le poids. Mais ce que vous êtes profondément, ce qui en vous est substantiel. Ça échappe. Ça échappe à l'expérience. Oui. Alors, les catégories manifestent d'une façon diverse, multiple, ce qu'est la réalité. Mais tant que je reste dans ce legetail, tant que reste dans cette manière de dire la manifestation de cet être, je ne dis pas ce qu'il est. Je reste dans la manifestation. Mais cette manifestation n'existe que grâce à son être, qu'il est. C'est très important de comprendre la différence d'un principe, ce qu'il est selon la forme, ce qu'il est selon la matière, ce qu'il est selon l'efficience, ce qu'il est selon la finalité, mais je commence par chercher ce qu'il est du point de vue des déterminations, donc de la forme. Et c'est les manifestations multiples qui sont toutes ordonnées, c'est vrai, ordonnées par ce principe interne qui ne se manifeste pas directement, que l'intelligence cherche. Et l'intelligence, elle fait comme ces petits gosses. Elle regarde la multiplicité pour la cause, l'égétail, tohon. L'être se dit de multiples façons. C'est curieux. L'être est un. Et il se dit de multiples façons. Vous voyez, le problème de la multiplicité visible, de l'unité invisible. Et vous voyez que cette multiplicité de se manifester, cette multiplicité implique quelque chose de caché qui est source de cette multiplicité, source au point de vue de l'être. Et c'est ça que je cherche. Quelle est cette source cachée qui s'explicite par la qualité, qui s'explicite par l'action, qui s'explicite par la quantité, qui s'explicite par le mouvement. Je cherche cela. Comment vais-je saisir cela ? Je le saisis par ces multiples façons de se manifester. Il se manifeste, il se dit l'égéta, il se dit de multiples façons. Et ces multiples façons d'être, de se manifester, que je peux saisir et que tout le monde peut saisir directement. Parce que c'est quelque chose que je peux décrire, ça. Mais qu'est-ce qui permet d'ordonner toute cette multiplicité ? C'est ce quelque chose qui est source de toute cette multiplicité. Un aspect de cette multiplicité peut disparaître, mais il demeure. Mais sur certains points, cette multiplicité est essentielle au caractère propre de cette réalité. Il y a un discernement que j'arrive à pouvoir faire, puisque je cherche ce qui est le plus secret et ce qui maintient cette diversité dans un certain ordre. Ce dominicain passé, il aurait pu avoir un animal du même poids, de la même dignité extérieure, mais ayant des activités très diverses. Parce que pour faire avancer cet animal, il aurait fallu mettre sans doute une betterave devant pour le faire monter. quelque chose qui l'attire. Là, cette tour ambulante marchait toute seule. Elle avait un motif pour monter. C'était l'heure de son cours. Ah. Pour l'animal, ça n'aura rien dit du tout. L'heure de son cours. Puisque l'animal n'aurait pas de cours. Et était conduit. Donc, il y a un caractère particulier à cette statue ambulante. Il se meut. Et il se meut à tel moment en vue de telle chose. Mais c'est le même s'il devait monter à une heure tout autre. S'il devait réaliser une autre activité, serait-il la même personne, serait-il la même chose, la même res, la même réalité singulière. Vous voyez, je peux modifier, et je peux le faire, je peux modifier mon regard sur cette réalité jusqu'à un certain point. Cette réalité est bien la même si elle passe le matin ou si elle passe le soir pour la même raison, faire le cours, et rien ne changeait. Les petits gosses qu'ils regardent, eux, changent. Parce que le matin, ils ont mangé, ils n'ont pas faim. Tandis que s'ils restaient là toute la journée, ils auraient faim. Alors, certains disparaîtraient. C'est très curieux de voir de l'extérieur. Hein, je décris une réalité extérieure par rapport à l'homme, par rapport à ce que je suis. Parce que pour chacun d'entre nous, on peut faire la même chose. Comment les autres me regardent-ils? Ils m'ont vu arriver au cours, ils m'ont vu m'asseoir, je m'assieds tout près d'eux, plus loin, je l'inspecte. Je vois qu'il écoute, je vois qu'il dort, rien n'est changé. Voyez, discerner ce qu'il y a dans les réalités qui sont autour de moi, le quelque chose qui ne varie pas, qui est toujours le même, et ce qui change. Ça a été la première découverte, ça. La première découverte, c'est ça. Il y a des réalités, du moins, il y a certains aspects de cette réalité qui ne se modifient pas. Il y en a qui se modifient. Celles qui se modifient ne changent rien à la réalité profonde. Elles sont accolées à cette réalité, elles sont accidentelles pour cette réalité, mais elles ne sont pas liées à cette réalité d'une façon essentielle. Il y a donc un discernement qui se fait entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Et ce discernement se fait à partir de l'expérience multiple, le soir et le matin, chaque jour de la semaine. Je suis capable de faire ce discernement de ce qui change et de ce qui reste le même. Il y a quelque chose qui caractérise cette réalité profondément. Il y a d'autres points de vue qui ne les caractérisent pas. voyez, c'est quand même une chose très extraordinaire qu'Aristote est arrivé à établir ce qu'on appelle les 10 catégories. Toute réalité physique autour de la personne humaine, autour de chacun d'entre nous, implique l'habitus, le situs, le temps, le lieu, la passion, l'action, la relation, la qualité, la quantité et la substance première, le sujet, la substance seconde, ce que c'est un homme. Vous voyez, l'établissement des qualités, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Depuis Aristote, la table des catégories n'a pas changé. Les interprétations de la table des catégories ont changé beaucoup. Legetai polakos, c'est dit de multiples façons. Et ma recherche de la substance, ce qu'est l'être du point de vue de la détermination, revient toujours là-dessus. L'être, l'homme, puisque parmi les êtres que j'expérimente, le plus parfait, c'est quand même l'homme. Je ne m'arrête pas à l'éléphant, je ne m'arrête pas au lion, bien qu'il soit premier dans son genre, et l'éléphant est premier dans son genre, c'est celui qui est le plus vieux parmi les animaux, je crois, celui qui vit le plus longtemps. Il est très traditionnel. L'éléphant, c'est un personnage. Et quand vous moquez de lui, il se venge. En Afrique, il y a beaucoup d'histoires de vengeance de l'éléphant. On peut en raconter. Ça m'intéressait, du reste. Je trouve très intéressant de voir ça. Chacun d'entre nous, on a une histoire, hein, et on a ces petites vengeances quand on ne nous respecte pas. Vous n'avez pas respecté ma dignité, ma substance. Et il y a très peu d'êtres qui respectent votre substance. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont jusque-là. Elles sont restées tout simplement à la hauteur du chapeau, pour connaître l'être. Ah, cette personne, mais oui, elle a tel chapeau. C'est le père Garrigou Lagrange, comme ça qu'on raconte, je dirais, cette histoire, qui avait demandé à un père de recevoir sa sœur qui venait de Rome. Elle a sa sœur. Le père a répondu, mais c'est pas inscrit sur elle qu'elle est la sœur du père Garrigou. Comment vais-je la reconnaître ? Alors, le père Garrigou a dit, elle a un chapeau de telle manière. Et il n'a pas dit, elle est très... Oui, sa première réflexion, c'était... Vous la verrez tout de suite, elle est très intelligente. Alors évidemment, le très intelligent ne se manifeste pas, tandis que le chapeau, on le voit, et on peut arriver à le distinguer, un chapeau qui est une plume. Alors, grâce à ça, évidemment, il y avait peut-être personne qui avait ça, mais ça faisait quand même un certain discernement. Et vous faites la même chose, hein, quand vous demandez à un ami d'attendre quelqu'un à l'aéroport ou au chemin de fer, vous donnez un détail de manifestation. Ça manifeste la personne. Et c'est pas la personne. Vous faites cette distinction, mais qui est capitale. Vous voyez, c'est très important pour nous aujourd'hui. Parce que ça, vous pouvez me dire, mais ça, pour Aristote, c'était très bien. Mais pour nous, eh bien, pour nous, cette table des prédicaments, elle joue toujours. Parce que c'est une expérience très simple. Chacun, les catégories, et ne dites pas, c'est purement logique. Parce que certains l'ont dit. Non. Les catégories expriment une expérience directe de la personne humaine. Une expérience directe. J'expérimente le poids d'une personne. Je peux l'expérimenter. J'expérimente la qualité. Certaines qualités, certaines noblesses, parce que la qualité, c'est la nobilitas, c'est la noblesse. Je peux expérimenter sa relation, sa manière d'agir, sa manière de pâtir, le lieu, le temps. C'est extérieur, alors. Mais c'est une manière de aussi de la situer. Cette personne-là habite tel endroit. Elle habite telle ville. Elle est contemporaine de telle personne. Le situs, sa manière de se tenir, c'est déjà une petite synthèse. Chacun d'entre nous, nous avons notre manière de nous tenir. Si je regardais bien, je pourrais vous distinguer d'après le situs que vous avez. Vous prenez des notes de telle façon qui n'est pas du tout la même manière que le voisin. Ça, c'est le situs. On distingue là, votre manière d'être. Et puis l'habitus, c'est justement votre manière de tenir votre porte-plume, votre stylo, votre manière d'écouter. Chacun est différent. Parce que vous n'avez pas été formé en série. Vous avez été formé en France, en Belgique, dans le milieu flamand. Vous avez été formé aux Pays-Bas. Vous avez été formé en Amérique. Et en Amérique, au Mexique. Ah, il y a une manière dont les Mexicains vous disent bonjour. Ils vous tapent trois fois dans le dos. Ça, c'est la manière mexicaine. Ça fait partie du situs. C'est quand même votre personne. Hein. Et c'est la manière dont vous, dont votre personne s'exprime. Votre substance s'exprime. C'est votre être, ça fait partie de votre être. C'est quelque chose que je peux expérimenter. Et je peux l'étudier. Et si j'ai un petit peu d'art, j'arrive très facilement, au point de vue artistique, à le répéter en le mettant en pleine valeur. C'est ça la caricature. vous situez le situs de quelqu'un. Il a une barbe. Les personnes qui ont coupé leur barbe tous les matins enlèvent quelque chose de leur situs. Tandis qu'ils laissent. Ça fait partie du situs. Ça fait partie des catégories. Hein. C'est bien évident. Ça colle à votre être. Et ça se manifeste plus que votre être. Et l'habitus, c'est plus intérieur. C'est votre manière de posséder. Ah, c'est l'avoir. L'avoir. Et chacun d'entre nous, on a une manière de porter ce qu'on a de plus précieux comme avoir. Alors le religieux a l'avantage que son porte-monnaie est vide, alors son avoir est plus léger, il s'en libère. Et au bout d'un certain temps, il devient pauvre. La pauvreté, c'est par rapport à l'avoir. L'avoir, c'est relatif à moi. Mon habit, au bout d'un certain temps, il est mon habit. Il m'a été donné. Et quand je l'ai reçu la première fois, c'était l'habit commun. Et dès le lendemain, c'est mon habit. L'avoir. L'habitus. Habere, avoir. Bon, l'être et l'avoir. Oui, quand on voit l'être et l'avoir, on oublie complètement que c'est très ancien. C'est très ancien, c'était donné déjà avec Aristote. Être et avoir, l'habitus. C'est très très profond, l'étape de ce qu'Aristote nous a donné là. Et c'est très actuel. Oui. On vit dans la féminologie. Pour un féminologue, qu'est-ce que ça représente, la recherche de la substance? La recherche de la substance n'est pas dans son avoir. Tout ce qui est vécu comme quelque chose qui me modifie dans ma démarche, dans ma recherche, dans ma manière d'être, mon avoir. La féminologie, elle montre magnifiquement notre avoir. Et la manière dont j'aime, donc la manière dont l'amour est à moi. Et vous voyez, c'est cet aberré, cet avoir qu'on développe. Mais cet avoir qu'on développe n'est pas ma substance. Je suis propriétaire. Mais je suis propriétaire de mes qualités, de mes actions. Est-ce que je suis propriétaire de mon être? Ah. Or, la substance, elle est de nouveau de l'être. Vous voyez, la féminologie ne peut jamais atteindre la substance. Et c'est très simple, parce que vous pouvez décrire dans tous les sens, votre avoir, tout ce que vous possédez, tout ce qui est à vous, le stylo, il y a une manière de l'utiliser, c'est vous. Il y a une manière d'écrire, est une manière de proclamer la vérité. Tout ça, ah, c'est le sujet qui se développe à travers ça. L'avoir du sujet. Et c'est vrai, c'est propre à l'homme. Alors voyez le grand danger, c'est que cette philosophie qui se développe, qui s'est développée énormément, quand vous laissez la comprendre dans la lumière des prédicaments, je vois que je ramène pratiquement l'être à l'avoir. Or, la seule chose que je ne possède pas, c'est l'être. Mon être. Il m'est donné. Mon être. Alors, vous pouvez l'épanouir de telle ou telle manière. Votre avoir se manifeste dans cet épanouissement de votre être, mais ce n'est pas votre être, c'est votre avoir. Donc, au fond, la substance reste en dehors de la phénoménologie, puisque c'est principe d'être. Ça ne peut regarder que ce qui est en moi. Ce qui est plus profond, plus radical que l'avoir. Gabriel Marcel, en distinguant toute chose, être et avoir, c'était pas si bête. C'est intéressant. Une manière de voir que très facilement, on ramène tout à l'avoir. C'est pas étonnant. Dans un monde comme le nôtre, où le point de vue économique prime, où l'avoir prime, qu'est-ce que tu as en banque? On ne dit pas qu'est-ce que tu es en banque. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi? Ta maison, elle est tienne, ou tu es habité chez un autre. C'est extraordinaire comme l'avoir s'est développé et l'avoir se développe de façon extraordinaire dans la phénoménologie. En réalité, si vous voulez creuser, vous verrez que c'est la philosophie de l'avoir, de tout ce que vous possédez. L'amour. Vous regardez l'amour non pas en raison de la personne que vous aimez, mais vous regardez l'amour en raison de la manière dont l'amour vous transforme. L'amour peut vous transformer très radicalement, très profondément, du fait que vous aimez quelqu'un d'une façon très profonde. Cet amour à l'égard de la personne attire toute votre personne. Toute votre personne est prise par là. Elle est transformée par là. Mais vous n'avez pas étudié l'amour. Vous avez étudié la manière dont l'amour vous a transformé. Vous avez étudié l'avoir de l'amour. Étudier l'avoir de l'amour, ce n'est pas l'amour, puisque l'amour est un don. Ah, juste inverse. Vous voyez, comme c'est intéressant que vous ne pouvez regarder l'amour qu'au point de vue de l'être, c'est-à-dire relativement à l'autre. C'est relativement à l'autre que vous regardez l'amour. C'est que l'amour fait sortir de vous. Quand vous regardez l'amour uniquement qui vous a transformé et qui vous transforme et qui vous donne de nouvelles, un nouveau champ d'activité, Mais c'est la voix que vous devez développer. Et vous n'avez pas développé l'amour. De sorte que c'est extrêmement important pour nous, au point de départ de cette recherche, de voir le polakos legetai. L'être se dit de multiples manières. Et alors, quand je vois ça, j'évite de m'enfermer dans l'avoir. La distinction des 10 prédicaments est au-delà, c'est-à-dire plus profonde, que la distinction être et avoir. Mais elle est intéressante aujourd'hui, puisque nous sommes nés dans cette distinction être et avoir, et que nous croyons que cette distinction, elle est capitale, elle est très intéressante, c'est sûr, elle est très intéressante, mais il y a une distinction plus profonde. L'être est-il changé parce que vous le possédez ? Poser la question. Est-il changé parce que vous possédez, ou est-ce que vous êtes changé parce que l'être est changé en vous? Est-ce que c'est vous qui changez l'être, ou c'est l'être qui vous change? Ah, c'est directement la question de savoir ce qu'est la substance. Si c'est vous qui changez l'être, donc vous changez la substance. Si c'est l'être qui vous change, donc la substance, elle vous change. Puisque la substance, c'est ce qu'il y a de premier dans l'être. Et je veux savoir ce qui est premier dans l'être. C'est ça que je veux savoir. Ah, donc vous voyez, être et avoir n'est pas suffisant. C'est une distinction très commune, très intéressante, c'est sûr. Elle me permet de comprendre beaucoup de choses, mais elle ne va pas assez loin. La distinction être et avoir ne me permet pas de saisir ce qu'il y a de premier dans l'être. Ce qu'il y a de premier dans l'être, c'est plus difficile de le découvrir que vous ne pensez. Ce qu'il y a de premier dans l'être, très facilement, pour nous qui vivons au début de ce troisième millénaire, quand nous cherchons ce qui est de premier dans l'être, c'est très, très souvent, nous cherchons ce qui est le premier dans l'avoir. Alors, c'est intéressant de savoir ce qui est le premier dans l'avoir. C'est intéressant. Parce que ce qui est le premier dans la voie a l'immense avantage que ça ne change pas. Parce qu'il est premier dans la voie. Mais être premier dans la voie, premier dans ce que je possède, dans ce qui est directement premier dans mon avoir, c'est pas le premier dans l'être. Oh, je cherche ce qui est premier dans l'être. Ah, ce qui est premier dans l'être, ah, je reviens toujours. L'être se dit, l'être est dit polakos, de multiples manières. Et il est dit de multiples manières parce que justement, je le saisis de ces multiples façons. Je le saisis selon ces 10 modalités. Selon ces 10 modalités. Chaque fois, c'est une modalité d'être. Et je peux la voir. Mais c'est second. Parce que le sujet n'est pas premier. Mettre le sujet avant l'objet, c'est mettre l'avoir avant l'être. Et donc, c'est considérer que ce qui est n'est saisi que quand je le possède. Et ça montre alors cette espèce d'avarice terrible qu'on peut avoir au point de vue métaphysique. Vous voyez, tout cela, je vous le dis, c'est pour que nous comprenions que la recherche des prédicaments, des dix prédicaments, est quelque chose qui n'est pas changé. Être et avoir, ça n'est pas changé. Et que la plupart du temps, on reste dans l'avoir. Que vous arriviez à distinguer bien l'être et l'avoir, c'est déjà beaucoup. Et nous nous plaçons du côté de l'être.